Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manirakiza en direct de Washington, studio 9 de la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans cette édition du 18 juillet 2018. Il est 18h30, temps universel. D'abord, les titres. Premier vol, Addis Abeba, Asmara, en 20 ans. Une nouvelle étape dans le dégel des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Une cellule terroriste démantelée au Burkina Faso, une soixantaine d'arrestations signalées. Au Sénégal, la cour d'appel de Dakar a rejeté la remise en liberté du maire de la capitale. Khalifa Sall a été condamné pour détournement de fonds publics. Un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs au Gabon.
Il y a une défaillance. Le système est malade dans ce pays.
Mandela Day, un hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
L'Allemagne veut accélérer les expulsions de demandeurs d'asile originaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Et dans la page des sports, vous retrouverez Yacouba Ouedraogo dans 10 minutes, juste après le journal. Normalisation des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le premier vol commercial en 20 ans a relié aujourd'hui Addis Abeba à Asmara. C'est une nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire en cours entre les deux anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. Des roses ont aussi été distribuées à bord. Les passagers, toutes classes confondues, ont sablé le champagne. Ils ont dansé et chanté à bord de l'appareil après son atterrissage à Asmara. Parmi les passagers du vol inaugural se trouvait l'ex-premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Certains passagers ont embrassé à l'arrivée des membres de leur famille qu'ils n'avaient plus revus depuis des années. Au Nigeria, arrestation de 8 djihadistes présumés en lien avec l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du pays. Le commissaire de police de l'État du Borno a affirmé que les suspects ont tous avoué leur culpabilité. Au total, 22 membres présumés de Boko Haram ont été interpellés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maïdougouri. Les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides à Maïdougouri et dans d'autres villes du nord du pays. Au Sénégal, le juge Demba Kanji, premier président de la cour d'appel de Dakar, a rejeté la demande de liberté d'office pour Khalifa Sall et ses co-détenus, requête introduite sur la base d'un arrêt de la cour de la CEDEAO. Selon le juge, cette cour communautaire n'est pas une cour fédérale. De Dakar, les précisions de Seydina Abagay.
Condamné à 5 ans ferme, le maire de Dakar reste donc en prison en attendant l'issue de son procès en appel. La cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de liberté d'office de Khalifa Sall et la nullité de la procédure pour détention arbitraire. Le premier président de la cour d'appel considère que la cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour suprême fédérale au-dessus des juridictions nationales et ses décisions n'ont pas d'impact sur les décisions des tribunaux des États membres. Il a ainsi débouté la défense et ordonné la poursuite du procès en appel du maire de Dakar et de ses co-détenus. Cette décision du tribunal intervient au lendemain de la volte-face spectaculaire du procureur général. Ce dernier avait plaidé pour la libération du maire de Dakar avant de se rétracter à travers une demande écrite adressée au premier président de la cour d'appel. À l'annonce du verdict, les partisans de Khalifa Sall ont semé le trouble, obligeant les gendarmes à évacuer la salle d'audience. De leur côté, les avocats du maire de Dakar ont annoncé un pourvoi en cassation pour contester le maintien de leur client en prison. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, démantèlement de bases de groupes terroristes dans le nord du pays. Une soixantaine de suspects sont actuellement en détention. Les détails de Bagassikoura.
Selon un communiqué de l'état-major des armées, les unités antiterroristes ont interpellé une centaine d'individus suspects, résultat d'une série d'opérations menées depuis le 8 juillet dans le nord du pays, frontalier avec le Mali et le Niger. Après vérification, 60 d'entre eux ont été transférés au service d'investigation de la gendarmerie et les autres ont été relâchés, annonce le dit communiqué. Des explosifs, des produits de contrebande et autres matériels servant à la fabrication d'engins explosifs ont également été saisis lors de ces opérations qui ont nécessité un appui des forces aériennes. L'armée annonce avoir également enregistré 3 blessés qui ont été transférés et pris en charge par les services de santé des armées. Par ailleurs, le chef de la commune de Hokuluru, située dans la même région du Nord, a été exécuté à l'entrée de la ville de Baraboulé dans la nuit de mardi à mercredi, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. Il avait été enlevé le 7 juillet dernier par un groupe d'hommes armés.
Bagassi Koura, au Cameroun, la crise anglophone a un très mauvais impact sur l'économie de la région du sud-ouest anglophone. C'est l'épicentre des combats entre l'armée et les séparatistes. Les plantations d'huile de palme ont été désertées. Les villages qui produisent le cacao et le café sont tous à l'arrêt. L'ONG camerounaise Human Rights a indiqué que le commerce de cacao a chuté de 80%. En RDC, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès demain jeudi. Le président Joseph Kabila doit s'adresser à la nation devant les deux chambres réunies. L'adresse interviendra à 6 jours du dépôt des candidatures à la présidentielle à laquelle il ne peut se représenter. Toujours en RDC, 11 personnes sont mortes et 15 portées disparues après le naufrage d'une embarcation motorisée sur le fleuve Congo. C'était dans le nord-est de la RDC. Cette embarcation privée naviguait de nuit sans lumière et a heurté une grosse pierre avant de chavirer. Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles doivent signer demain jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir. D'après les autorités de Djouba, le compromis sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet. En Somalie, de jeunes étudiants somaliens se sont portés volontaires pour donner des cours gratuits à des enfants qui vivent dans des camps de déplacés. Les 30 volontaires sont pour la plupart issus d'universités locales. En Afrique du Sud, des townships au quartier plus chic de Johannesburg, la nation arc-en-ciel, a salué aujourd'hui l'héritage de Nelson Mandela. Ce mardi, de vibrants hommages de l'ancien archevêque Desmond Tutu et de Barack Obama ont rappelé les valeurs de l'icône mondiale de la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Et en Tunisie, 4 ONG ont appelé ce mercredi les autorités à autoriser l'accostage d'un navire commercial qui a secouru une quarantaine de migrants partis de la Libye.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump continue de se défendre après les critiques dont il a fait l'objet depuis le sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Après la rectification hier de ses propos, le président américain insiste sur la réussite de sa rencontre d'Helsinki. Il explique aussi qu'il est le président le plus ferme qui soit avec la Russie. Abdulrahman Djia.
La rencontre de lundi avec Poutine pourrait, sur le long terme, être couronnée d'un succès encore plus grand que les entretiens avec l'OTAN, qui ont été un triomphe évident, a estimé Donald Trump dans une série de tweets. Il a aussi affirmé que la Russie a accepté d'aider les États-Unis sur la Corée du Nord. Cette déclaration du président américain intervient moins de 24 heures après être revenu sur des propos qui avaient scandalisé la classe politique américaine car il semblait mettre en doute l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Lors de sa conférence de presse avec Vladimir Poutine lundi, Donald Trump avait dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations du président russe sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016, pourtant certifiée par le renseignement américain. Face aux nombreuses critiques venant de tous bords, y compris des républicains, il a dû organiser une mise au point au cours de laquelle il a reconnu s'être mal exprimé. Il a également assuré avoir confiance aux services de renseignement américains.
Abdulrahman Djia, un tribunal turc a ordonné ce mercredi le maintien en détention préventive du pasteur américain Andrew Brunson. Il est jugé pour terrorisme et espionnage en détention depuis octobre 2016. Cette affaire empoisonne les rapports entre Ankara et Washington. Le gouvernement allemand veut accélérer les renvois de demandeurs d'asile originaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie en les inscrivant au même titre que la Géorgie sur la liste des pays sûrs. Le projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Les précisions de Irénée Hermann Ungbo.
C'est la deuxième tentative des autorités allemandes après qu'un premier projet de loi a été rejeté l'an dernier par la Chambre haute du Parlement, le Bundesrat. Le gouvernement veut inscrire ces trois pays du Maghreb et l'ancienne République soviétique sur la liste des pays dits sûrs, comme c'est déjà le cas pour le pays des Balkans non membre de l'Union européenne. Les services d'immigration allemands pourront alors rejeter quasi automatiquement les demandes d'asile de leurs ressortissants. Berlin justifie cette décision par le fait que les demandes d'asile en provenance de ces pays sont déjà déjà toutes rejetées à plus de 99% pour la Géorgie et l'Algérie. Seuls 2,7% des demandes d'asile de Tunisiens et 4,1% des requêtes de Marocains ont reçu une réponse positive des autorités allemandes, notamment en 2017. Le ministère de l'Intérieur, aux mains du très conservateur bavarois Horst Seehofer, espère que cette mesure permettra une diminution drastique des demandes d'asile émanant de ces quatre pays.
Après Washington, Budapest se retire d'un pacte mondial sur les migrations. La Hongrie estime que ce pacte approuvé la semaine dernière à l'ONU encourage les flux de personnes qu'elle juge dangereux. Le directeur de cabinet du président iranien a affirmé ce mercredi que le président américain Donald Trump a demandé à 8 reprises une réunion avec son homologue iranien Hassan Rouhani à marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU l'automne dernier. Il a précisé que l'équipe iranienne n'avait pas répondu aux requêtes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Echo, signée Raissa Gironde.
Au Cameroun, la crise anglophone a un très mauvais impact sur l'économie de la région du sud-ouest anglophone, épicentre des combats entre l'armée et les séparatistes, selon l'ONG camerounaise Human is Right. Les plantations d'huile de palme de l'entreprise publique Pamol ont été désertées dans le département d'Ndiane et les villages qui produisent le cacao et le café sont tous à l'arrêt parce que les villageois ont abandonné leur culture. Le Fonds monétaire international a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2019 à 3,8% contre 3,7% lors de sa précédente estimation datant du mois d'avril dernier. Le relèvement des prévisions de croissance pour 2019 s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. La Chine a annoncé être contrainte de prendre des mesures de représailles supplémentaires contre les États-Unis afin de protéger ses droits et intérêts face aux taxes douanières américaines visant l'aluminium et l'acier importé. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a noté que les États-Unis sont les plus exposés aux conséquences de la guerre commerciale qui pourrait coûter des centaines de milliards de dollars au PIB mondial dans les prochaines années.
Et nous ouvrons votre page des sports sans transition. Yacouba Ouédraogo avec vous. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Nous revenons sur la troisième journée de la Coupe CAF. L'AS Vita Club est tombé au Ghana.
Fraîchement sacré champion de la RDC, les hommes de Florent Ibengué ont été surpris 2-1 sur la pelouse d'Adouana Star. Hadji à la troisième et Yahya Mohamed, 7 minutes plus tard, ont marqué rapidement pour infliger sa première défaite à Vita Club malgré la réduction du score de Muzenga à la 26e. Dans le groupe C, invaincu jusque-là, Williamsville d'Abidjan n'est pas parvenu à enchaîner. Les Ivoiriens sont tombés 1-0 au Nigeria contre Enyimba. Ibrahim Mustapha a été l'unique buteur de la rencontre.
Il reste une seconde chance aux perdants pour inverser la vapeur. Il y aura la quatrième journée à suivre toujours sur nos antennes et le marché des transferts. Ne s'estompe pas. Razri a rejoint Saint-Étienne et Bissouma Brighton.
Le jeune international malien, 21 ans, a quitté Lille pour le club anglais de Brighton. Yves Bissouma a signé un contrat de 5 ans. Cette opération devrait rapporter environ 20 millions d'euros au LOSC, dont 3 millions de bonus. L'attaquant international tunisien Wabi Kazri, 27 ans, a lui signé pour 4 ans à l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2022 donc. La saison dernière, il avait été prêté par Sunderland à Rennes, où il a joué 29 matchs et inscrit 11 buts. Il totalise 40 sélections et vient de disputer le mondial en Russie.
Parlons basket ici aux États-Unis. En NBA, les Golden State Warriors ont prolongé le contrat de leur entraîneur.
Steve Kerr, l'homme qui a permis à l'équipe californienne, championne en titre, de conquérir 3 sacres en 4 ans, a été prolongé de 4 ans. La durée du nouveau contrat et les émoluments n'ont pas été divulgués, mais selon certaines sources, il ferait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la NBA.
Un peu de cyclisme avant de vous quitter. Coup double pour Guérin Thomas à la 11e étape du Tour de France.
Le Britannique a enlevé l'étape du jour et a revêtu le maillot de leader dans la station alpestre de la Rosière. Thomas s'est imposé en solitaire dans cette première arrivée au sommet avec 20 secondes d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier, le Britannique Chris Froome.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manilakiza de retour avec vous, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a terminé ce mardi une visite de 2 jours au Niger. La coopération entre le Niger et l'Union européenne en matière notamment de sécurité et lutte contre l'immigration irrégulière était au centre des discussions entre lui et les autorités nigériennes. Les détails de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Antonio Tajani a d'abord été reçu par le président Issoufou Mahamadou. Ce dernier, en tant que président en exercice du G5 Sahel, lui a demandé l'appui de son institution pour une meilleure opérationnalisation de la force du G5 Sahel.
L'Union européenne soutient la force conjointe du G5 Sahel qui se bat contre le terrorisme et le crime organisé dans l'espace du G5 Sahel. Et nous avons souhaité que ce soutien se renforce, en particulier au plan diplomatique par rapport à la mise sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de cette force conjointe et par rapport à la nécessité d'asseoir un financement pérenne afin que cette force puisse continuer à être opérationnelle sur plusieurs années.
Le président du Parlement européen est ensuite allé encourager les parlementaires des 5 pays du G5 Sahel qui ont décidé à Niamey ce lundi de mettre sur pied un organe de contrôle de la gestion de cette organisation. La prochaine étape fut la visite d'une des maisons d'accueil de réfugiés évacués de la Libye gérée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alessandra Morelli, la représentante du HCR au Niger, explique.
C'est ici qu'ils respirent pour la première fois la liberté. C'est le premier port sûr d'un voyage que pour plusieurs de gens a duré 1 an. Et c'est un voyage d'esclavage, de violence, d'abus, d'extorsion et de viol. Et donc c'est le premier port qui continuera dans d'autres pays qui vont les accueillir pour reprendre en main leur dignité.
Dans cette maison d'accueil, une 60aine de personnes, des jeunes femmes en majorité de nationalité érythréenne, prises en charge par le HCR avant leur acheminement régulier vers des pays européens qui désirent les accueillir. Une initiative saluée par Antonio Tajani qui estime qu'elle doit être répliquée ailleurs en Afrique.
Cette initiative, c'est aussi un bon système pour donner un coup aux passeurs, aux trafiquants, parce que si il y a un système légal pour contrôler s'ils ont le droit d'être des réfugiés, et après on peut les envoyer dans les différents pays dans le monde, ils probablement trouvent déjà un travail, c'est la bonne façon pour tuer la stratégie des affaires des passeurs, donc des organisations de trafiquants. Et alors voilà pourquoi l'Europe est en train d'aider ce projet. Le Niger est un bon exemple, mais il faut trouver des solutions aussi dans les autres pays et avec un dialogue. Je pense que ce sont les pays de l'Afrique subsaharienne.
Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou ? Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre ? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains ? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
Le gouvernement gabonais a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs, des bons que les salariés de l'État tentent avec difficulté de récupérer depuis lundi. Cette mesure n'est pas vue d'un très bon œil par certains syndicats. Et Kiabadou a joint à Libreville le président des syndicats du groupe des communicateurs de la radio-télévision du Gabon, Jean-Olivier Makaya.
Si je me réfère à ce qu'a dit le gouvernement, c'est un recensement qui ne dit pas son nom. Selon eux, ils constatent qu'il y a des fonctionnaires d'État qui perçoivent des salaires. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont retraitées mais qui continuent à percevoir des salaires. Et en plus, il y a des gens qui ne travaillent plus mais qui, chaque fin du mois, se pointent à la banque. Pour essayer de vérifier tout ça, ils ont instauré un système de fiches de présence exceptionnelle qui doit être visé par les responsables et renvoyé au ministère de chaque structure pour signature par le secrétaire général. Et ce n'est qu'après cette signature que vous pourrez aller dans les sites qu'ils ont installés pour retirer votre bon de caisse et puis les banques sont représentées si vous devez aux banques. Pour leur donner un coupon et ils saisissent, soit ils valident.
D'un point de vue pratique, est-ce que cela vous semble possible et réalisable?
On nous demande un peu trop parce que, hormis, l'attestation de présence exceptionnelle peut être également munie de l'attestation de prise de service, donc la période à laquelle vous êtes rentré dans l'administration et votre pièce d'identité. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas cessé, l'État n'a pas cessé de nous faire remplir ce genre de documents. Il y a quelques mois, ça a été fait. Ils ont, disons, engrangé plus de 400 millions. Seulement, on ne sait pas où va cet argent par la suite.
Le gouvernement a-t-il besoin de ce recensement?
Je pense que si on avait chez nous une administration organisée, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il y a la fonction publique. Il y a dans chaque département ministériel un département de ressources humaines. Tel, dans 2 ans, il va être retraité. Tel est déjà retraité et puis avoir un fichier. Donc on n'avait pas besoin de faire balader le travailleur gabonais pour un soi-disant recensement que chaque administration aurait pu faire en toute quiétude.
Alors, selon vous, quelle autre solution? Est-ce qu'il y a peut-être une défaillance pour qu'on puisse venir quand même à ce système de bons de caisse?
Effectivement, il y a une défaillance. Le système est malade dans ce pays. Il y a beaucoup qui se disent fonctionnaires alors qu'ils ne sont pas. Il y a beaucoup de personnes décédées mais dont les salaires continuent à passer. Il y a également ceux qui ont des doubles salaires. Donc ça leur a permis, ça permet au gouvernement de regarder tout ça. Et puis il y a eu une bonne manne, une bonne enveloppe qui est revenue à l'État. Comme hier, on était reçu par le ministre de l'État de la Communication. Nous avons posé la question de savoir où va cet argent. Mais malheureusement, bon, c'est resté en suspension.
Jean-Olivier Makaya, président des syndicats du groupe des communicateurs de la radio-télévision du Gabon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique salue aujourd'hui l'héritage de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Irénée Herman Nkbo a joint l'ancien ministre béninois et écrivain, le professeur Albert Tevéodré, qui a côtoyé le héros sud-africain. Il revient ici sur l'héritage que Mandela a légué aux Africains.
C'est important pour nous aujourd'hui de commémorer de la volonté, du refus de la lâcheté. Je pense que pour les Africains et pour l'humanité, Nelson Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
Est-ce que le combat pour la liberté et l'égalité que Mandela a mené toute sa vie est suivi aujourd'hui non seulement dans son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi dans toute l'Afrique?
Je ne veux pas juger, mais je suis désolé de constater que beaucoup lâchent, acceptent l'argent, acceptent la facilité et que, véritablement, les droits de l'homme ne sont pas toujours la priorité. Or, ce qui enrichit un peuple, c'est le droit de l'homme debout. Et les Africains ont beaucoup souffert de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme, mais ne désespérons pas. Il y a quelques-uns qui nous font honneur et donc je pense que ce n'est pas la peine de distribuer des prix. Déplorons et encourageons.
Alors, M. Tevéodré, vous qui aviez côtoyé Nelson Mandela dans vos nombreuses responsabilités au plan international, vous a-t-il inspiré à un moment donné de votre parcours?
Il m'a toujours inspiré. D'abord, son rôle dans l'éducation, l'importance qu'il a donné à l'éducation, l'importance qu'il a donné au refus de la facilité, l'importance qu'il a donné à une manière de quitter le pouvoir. C'est important de surgir, agir et s'effacer pour que la génération qui vient puisse poursuivre afin de jeunes à monter sur les ponts des anciens pour voir plus loin que eux. Moi, je ne veux pas dire que moi, non, ce n'est pas intéressant, le moi. Ce qui est important, c'est que pour moi, ça a été un exemple qu'il fallait que j'aie dans la tête, dans le cœur, pour faire le peu que j'ai pu faire.
Parlons justement de la nouvelle génération. À votre avis, qu'est-ce que la jeunesse africaine doit-elle s'approprier aujourd'hui du combat de Nelson Mandela?
D'abord, l'éducation. On n'est pas libre des privilèges. On est libre parce qu'on s'est préparé à la liberté. On a refusé la facilité. Il y a d'abord ça. Ensuite, l'éducation permet d'agir, de mieux faire. Pas donner du plateau aux femmes parce que c'est les femmes. Point non. Donner aux femmes qui méritent. Et donc, de leur apprendre à mériter. C'est important. Première chose. Deuxième chose, savoir que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est le bonheur du peuple qui fait la joie de l'homme. C'est important. Je dois dire, le gouvernement de la Cour de France, Maduro dit bien que les Africains ont gagné la Cour de France. C'est bon. Dans tous les domaines, nous devons monter cet exemple-là. Il y a des Africains qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des sportifs, il y en a qui brillent dans d'autres domaines. Nous pouvons briller autant que les autres.
Le professeur Albert Tevéodré, qui était joint à Porto Novo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La lutte contre le sida en plein paradoxe. La proportion de séropositifs qui ont accès au traitement n'a jamais été aussi élevée. Cependant, un relâchement dans la prévention et la baisse des financements font craindre un rebond de l'épidémie. Près de 3 séropositifs sur 5 dans le monde, soit 21,7 millions sur 36,9 millions au total, prennent des traitements antirétroviraux, soit la plus haute proportion jamais atteinte. Nicolas Pinot a joint à Genève le directeur de l'information stratégique et de l'évaluation de l'ONU SIDA, Peter Geese.
Actuellement, nous estimons à quelque 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Moins de 1 million de personnes sont mortes à cause du SIDA. C'est le chiffre le plus bas qu'on a jamais estimé, mais en même temps, il est vrai que nous voyons qu'il sera difficile d'atteindre la cible qui est de moins de 5 000 morts à cause du sida d'ici l'année 2020. Pour la survenue de nouvelles infections, nous estimons qu'il y a eu en 2017 quelque 1,8 million de personnes qui se sont infectées par le VIH. Et plus grave, peut-être, on ne voit pas une diminution qui est assez rapide pour atteindre la cible qui est elle aussi de 5 000 nouvelles infections pour l'année 2020.
Quelle est la situation sur le continent africain?
Eh bien, la situation du sida, elle est un peu différente selon les régions en Afrique. La région la plus touchée en Afrique, c'est l'Afrique australe, où il y a des pays qui ont des prévalences de plus de 25% de leur population adulte. Et ensuite, l'Afrique de l'Est, qui a aussi des taux élevés de VIH. Et ensuite, il y a aussi l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où nous voyons des taux de prévalence qui peuvent être assez faibles, comme par exemple au Sénégal, à peu près 1%, mais jusqu'à peut-être 5-6% pour des pays comme la Centrafrique ou le Cameroun. Et donc, quand nous voyons le progrès en tant que réduction de nouvelles infections, nous voyons que c'est la région de l'Afrique de l'Est et australe qui a progressé le plus. C'est-à-dire que c'est la région qui est le plus touchée, mais c'est elle aussi qui a fait le plus de progrès et qui a le plus fortement diminué la survenue de nouvelles infections et aussi la survenue de décès à cause du sida.
Où en est-on de la recherche? Quand un vaccin contre le sida sera disponible selon vous?
Les efforts pour trouver un vaccin continuent. Nous avons connu il y a quelques années un premier succès avec un vaccin qui avait pour la première fois démontré une efficacité. C'était un vaccin qui avait été testé en Thaïlande. Efficace, mais malheureusement qu'à un niveau de à peu près une protection de 30%. Et donc nous avons actuellement de nouveaux essais qui sont en cours pour évaluer des vaccins dont on espère qu'ils auront une efficacité plus grande.
Peter Hagels, directeur de l'information stratégique de l'évaluation de l'ONU SIDA. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. La mise en onde, Gisèle Morissa. À la console, Shidrack Franklin. Eric Manilakiza à la présentation. Oui, il faut de temps en temps sourire. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais elle donne autant de lumière. On reste en contact sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite des programmes.